Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, merci d'être venu accueillir avec nous Adrien Laroche, qui est venu ce soir nous parler de son dernier roman, Qui va là, publié aux éditions Rivage. Adrien Laroche, bonsoir.
Bonsoir, Marilyn.
Déjà, pour vous présenter, c'est un peu compliqué, parce que vous avez quand même un CV qui est assez riche. Vous avez fait l'École nationale supérieure, vous avez enseigné à Dartmouth, si je ne me trompe pas, ouais. Sinon vous m'arrêtez.
C'est l'université nord-américaine imprononçable.
Ah oui, c'est
donc,
vrai.
Donc à force d'essayer, on dit Dartmouth, quelque chose comme ça, enfin, c'était pas loin.
Je ne sais jamais le prononcer. Pour rester un peu sur votre carrière littéraire, entre guillemets, vous avez donc Qui va là, votre quatrième roman. Vous aviez déjà publié précédemment donc, Les Orphelins, Les Hérétiques et La Restitution, qui avaient tous en fait une sorte de, comment dire, de dénominateur commun, puisque vous parliez de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que dans votre travail littéraire, vous essayez toujours d'avoir une dimension historique ?
D'abord, merci à vous d'être là cet après-midi. En réalité, vous avez nommé les orphelins, effectivement. Les orphelins, pour être bref, se présentaient comme trois histoires et trois façons d'être orphelin. Et effectivement, la première histoire, c'était celle d'une... C'est l'orphelin au sens littéral, quelqu'un qui avait perdu son père en déportation pendant la Seconde Guerre mondiale, une vieille femme. Et donc la première histoire était autour de ce personnage féminin, âgé, qui avait perdu son père et qui était donc orpheline. Donc là, on retrouvait l'histoire avec un grand H, mais par ailleurs, les deux autres histoires étaient assez différentes, puisque le deuxième récit avait affaire avec une jeune femme atteinte d'une maladie orpheline, donc c'était l'orphelin cette fois au sens pathologique et pas historique. Et donc, on suivait cette jeune femme une journée dans un chalet. Et puis, la troisième histoire, c'était un orphelin philosophique, au sens où il avait choisi de se couper volontairement de ses parents, de son histoire, de son passé. Et donc, effectivement, ce que j'essaye en tout cas, c'est d'avoir plus d'une dimension ou plus d'un livre dans chaque livre ou plus d'une histoire dans chaque récit. Et donc, c'est vrai que dans Les Orphelins, la Seconde Guerre mondiale était présente dans la première histoire. Et alors, dans La Restitution, qui était mon avant-dernier roman, alors là, pour le coup, il y a un vrai substrat historique, puisque, comme le titre l'indique, La Restitution, c'est un récit à partir du fait historique de la spoliation des biens juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, et la question ensuite des restitutions, hein, puisque... C'est une longue question historique qui ne trouve finalement son aboutissement qu'aujourd'hui, enfin depuis les années 2000, puisqu'il y a eu la guerre. Pendant la guerre, il y a eu la spoliation. Ensuite, on a parlé beaucoup des rescapés, des survivants, des réparations. Et puis finalement, quand les témoins ont commencé à disparaître, quand les survivants ont commencé à mourir, la seule question qui reste aujourd'hui, c'est celle des objets. Et donc des objets à restituer. Donc bref, mon récit, La Restitution, c'était à partir de cette question historique, mais je ne traitais pas que de ce sujet-là, encore une fois, puisque mon sujet, c'était aussi la spoliation de la mémoire, voire la spoliation de l'identité. Et donc là aussi, il y avait une série de personnages, trois, comme toujours, dont l'un était un collectionneur d'œuvres d'art, l'autre un diplomate qui travaillait sur la question des restitutions et une jeune femme qui tenait un hôtel dans lequel il y avait un trafic d'enfants. Donc il y avait toute une réflexion sur les objets d'art, sur le trafic des objets, sur les enfants objets aussi de trafic et donc une réflexion sur la mémoire, l'identité et la spoliation. Et qui va là pour en venir au livre dont on parle aujourd'hui, l'histoire est revenue, mais j'allais dire par la fenêtre, enfin, parce que justement j'étais finalement, j'allais dire, c'est mon. Enfin, comment dire ça Oui, là, si vous voulez, le livre se passe en Amérique du Nord et j'ai rencontré des gens là-bas pour qui la Shoah, l'extermination, etc., ça disait presque rien. Même le mot Shoah, c'est, par exemple, l'héroïne du livre est une Coréenne, enfin, on en parle, on va expliquer un peu le plot, la narration. Mais donc, il y a une héroïne dans le livre qui est coréenne et j'ai rencontré des Coréens à Vancouver où se passe le livre qui n'avaient jamais entendu parler du mot Shoah, bon, même si peut-être ils avaient quand même eu vent de l'extermination, mais bref. Et donc, finalement, le livre n'était pas mécontent de parler d'autre chose et de ne pas revenir encore une fois sur cette question-là. Mais finalement, on s'est quand même revenu, puisque cette famille coréenne dont je parle, la grand-mère, a participé pendant la guerre sino-japonaise qui se déroulait en même temps qui se déroulait aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, à ce qu'on a appelé les femmes de réconfort. Enfin, il y a un autre nom là, justement, le terme historique m'échappe. Enfin, bref, c'est ces femmes coréennes qui ont été enrôlées de force dans l'armée japonaise comme prostituées et comme femmes de réconfort. Et donc, alors que j'avais absolument pas prévu de reparler encore de ces histoires d'abus, de devenir objet de l'humain, de toutes ces questions-là, finalement, c'est quand même revenu, puisqu'il y a un long passage du livre sur cette question-là des... Mais je fais ménage, j'ai oublié le terme historique, mais enfin, disons des femmes de réconfort coréennes dans l'armée japonaise. Donc, encore un épisode historique fort de la Deuxième Guerre mondiale.
Donc, qui va là ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement ce titre, l'origine, oui. le choix de ce titre.
Donc le titre fait référence à une exclamation de Don Juan, enfin plutôt de Don Giovanni de Mozart, au dernier acte de l'opéra. Vous connaissez tous l'histoire de Don Juan, de ses conquêtes, de son valet. Et finalement, de son hubris, enfin, au sens où il transgresse toutes les règles. J'ai eu la chance de voir là, cet hiver à Paris la mise en scène de Haneke, le réalisateur de films, qui a fait un Don Juan, donc une mise en scène qui est maintenant écrite. Donc là, ce n'est pas lui qui était revenu la faire, mais c'était sa mise en scène. Et lui, il avait transposé l'histoire de Don Juan dans le milieu des ultra-riches et des hommes d'affaires et des traders, etc. Donc Don Juan était une espèce de patron machiste, insupportable, qui usait du droit de cuissage, etc. Et donc, à la dernière scène, le commandeur, c'est-à-dire le père de la jeune femme qui l'a séduite au début du livre, est mort et réapparaît comme spectre dans la nuit. Et Don Juan est dans la pénombre, comme ça, avec son valet. Il entend un bruit et donc il s'exclame « Qui va là ?» C'est une exclamation, ce n'est pas une interrogation. Et donc c'est le commandeur et donc c'est la mort. Et dans la mise en scène de Haneke, c'était drôle parce que donc après ce moment-là, Don Juan, comme vous savez, la terre s'ouvre et il disparaît dans les flammes. Et dans la mise en scène de Haneke, ce qui était... ironique, c'était que finalement c'était la mort de Don Juan et le triomphe des agents de surface, c'est-à-dire qu'en fait tous les gens qui avaient fomenté comme ça un complot contre lui, enfin pour en finir avec cet homme, avec ce Don Juan, c'était les balayeurs de l'entreprise, les femmes de ménage, etc. Et donc Don Juan sombre et les agents de surface triomphent. Mais donc qui va là, c'est le commandeur et donc c'est la mort.
Et quel lien on peut faire entre le qui va là, toute cette histoire de Don Juan et votre roman ?
Oui. Ah bon, alors après, ça reste un titre mystérieux, enfin, puisque tout ça n'est pas dit dans le livre. Enfin, il y a quand même une exergue qui rappelle Don Juan. Mais c'est ce qui m'a plu, c'est-à-dire qui va là, c'est à la fois donc une exclamation vis-à-vis de la mort, et puis ça peut s'entendre aussi comme une interrogation sur l'identité, enfin qui est celui qui parle, à qui a-t-on affaire ici, parce que tous mes livres, des orphelins jusqu'à qui va là, sont une réflexion sur l'identité, sur la mémoire, sur le nom propre, le nom que l'on porte. Et donc, c'est absolument pas réglé pour moi, hein, et donc dans mon travail. Et donc, ça continue à me travailler, justement. Et donc, Kivala est exprimé de façon nucléaire, enfin, sous une toute petite, comme ça, exclamation, toutes ces questions. Voilà. Et alors, pour le rattacher un peu plus précisément encore au livre, c'est peut-être le moment de dire un peu comment ça se présente.
Bien sûr.
Le livre se passe dans une ville nord-américaine, à Vancouver, qui est une ville à l'ouest du Canada et qui a plusieurs particularités. Enfin, la première, c'est qu'elle abrite enfin, d'abord, c'est une ville très, très belle au milieu des montagnes et à côté du Pacifique. Donc, il y a un paysage comme ça, naturel, sauvage, extraordinaire. Et le livre se passe en partie dans ces paysages, dans les montagnes. Il y a également une énorme communauté asiatique. Donc, d'où un des personnages du livre qui est coréen, comme je vous l'ai dit. 50% de la population de Vancouver vient d'Asie, du Japon, de Corée, de Chine, etc., de Hong Kong. Et puis, il y a aussi un quartier qui s'appelle Hastings, qui est celui où tous les déshérités du Canada convergent. Parce que Vancouver est une ville, contrairement à ce qu'on peut croire en pensant au Canada, où il ne fait pas moins 20 en hiver. Ça ne descend jamais en dessous de zéro, puisque c'est au bord de la mer et du Pacifique. Et donc, tous les pauvres, tous les drogués, tous les spectres convergent vers Vancouver. Et donc, il y a un quartier dans lequel ils se retrouvent là, et qui est un quartier de spectres. Et voilà, donc le livre se passe là. Et les personnages du livre sont trois. Il y a donc la fille d'une dégraisseuse, que j'appelle la dégraisseuse, ça vient d'ailleurs des mémoires de Casanova, la dégraisseuse, mais c'est en fait une teinturière, qui fait son travail là-bas, et sa fille, dont on ne donne pas le nom, est une étudiante, et puis une artiste de la performance. Donc ça, c'est le premier personnage. Le second, c'est donc pas le narrateur, mais le personnage masculin qui s'appelle Adrien sans H et qui, lui, est visiting professeur dans une université de cette ville. Et enfin, il y a un troisième, et écrivain, et un troisième personnage qui est une vidéaste française, étudiante elle aussi, qui arrive à Vancouver pour un été. Et donc se noue entre ces trois personnages une drôle de relation.
Je reviens juste, je fais une petite parenthèse sur ce que vous venez de nous dire, donc sur notamment le personnage principal, question que je vous ai posée tout à l'heure. Mm-hmm. Donc Adrien, sans H, pourquoi avoir choisi ce personnage ? Est-ce qu'il s'agit de vous ou
ce ou nom ou ce personnage ? Enfin, ou les deux.
Les deux.
Ouais. Ouais. Je suis obligé de revenir un petit peu en arrière parce que c'est... Dans mon premier livre, dans Les Orphelins, les personnages n'avaient pas de prénom, mais tous s'appelaient H quelque chose. Donc c'était H, vous voyez, comme on dit, par exemple, le directeur de cette librairie s'appelle Denis Mola. Donc au lieu de dire Denis Mola, j'aurais dit H né Mola. Voilà. Et donc il y avait trois personnages comme ça qui tous avaient un prénom commençant par H mais qui n'était pas nommé et un nom de famille. Enfin bref, donc les noms pour moi c'est très complexe. Ensuite, la plupart de mes personnages dans les autres livres se sont tous appelés Henri, Henri IE, Henri avec Y, toujours avec le H. Et puis finalement, dans ce roman, j'ai appelé un personnage Adrien sans H. Bon, voilà, c'est la question du nom propre. Et du nom, et dans mon cas, du nom propre qui est aussi un nom commun, puisque la roche, ça veut dire aussi la roche, enfin la pierre, la montagne, c'est ce que vous voulez. Donc c'est pas facile, enfin c'est un peu compliqué les noms propres qui sont aussi des noms communs. Mais donc, si j'ai, pour répondre un peu plus straightforward, un peu plus directement, c'est une prise de risque. C'est-à-dire que c'est la première fois que je fais ça, je sais pas si je recommencerai d'ailleurs. Enfin, j'ai une idée pour la suite que je vous dirai après, mais c'est une prise de risque parce que forcément, on a tendance à penser que Adrien sans H ou Adrien avec un H, c'est le même. C'est pas exactement le cas. Il ne s'agit pas du tout d'autofiction, il ne s'agit pas du tout de psychologie ou de psychologisme. Enfin, vous verrez si vous lisez le livre que on échappe à ça, enfin, j'espère, en tout cas, c'est plus sec. Enfin, c'est à la fois très humain, mais c'est aussi sec. Enfin, il ne s'agit pas de se raconter. Ou plutôt, ce que je peux dire aussi sur ce sujet, c'est que il s'agissait effectivement pour moi de faire le point sur mon travail, sur mon propre travail et sur ma vie aussi, enfin sur mon expérience. Et donc voilà, j'ai pris ce prénom qui est proche du mien pour faire le point sur mon travail d'écrivain, sur les trois romans précédents. Et il y a un chapitre entier du livre, une partie entière du livre qui est une sorte d'autocritique ironique de mon propre travail. Et puis aussi pour faire le point sur, voilà, sur l'expérience peut-être amoureuse de cet Adrien. Mais ce que je veux aussi dire à ce sujet, c'est que ce qui est apparu, c'est que c'était impossible pour moi de le faire. C'est-à-dire que alors que j'avais pensé faire un livre sur Don Juan, sur un séducteur, sur la toute-puissance du jeu séducteur de Don Juan, la toute-puissance amoureuse, etc. Je me suis retrouvé, au contraire, à parler du corps qui s'évanouit, du corps mutilé, du corps passif, des vomissements, de l'anorexie, enfin bon, toutes sortes de choses où le corps est plutôt en souffrance et ne décide de rien. Donc plutôt qu'exposer le moi ou mon moi, même si le personnage s'appelle Adrien, c'est plutôt exposer tout ce qui a fait obstacle à sa description du moi ou de moi. Tout ce qui rend très difficile, dans mon cas en tout cas, l'exposition de moi ou de qui suis-je, d'où le titre encore une fois, qui va là, quoi.
D'ailleurs, je me permets de rebondir sur ce que vous dites, puisque, bon, après, c'est peut-être une très mauvaise interprétation de ma part, mais quelque part, vous le dites tout ça dans votre livre, puisque je me permets de vous citer. Après tout, le sujet, ce n'est peut-être plus Adrien. Est-ce qu'Adrien voulait être sujet? Rien n'est moins sûr. Est-ce que c'est justement dans cette démarche-là que vous
il faut aller un peu plus loin parce que là,
oui, c'est vrai que dit comme ça.
Non, je sais pas. Non, c'est ce que je viens de dire un petit peu, oui. Donc, quelle est la question à partir de là?
Non, c'était juste. Enfin, je me demandais si c'était comment dire une façon de dire que ce livre n'était pas sur vous, d'écrire ce genre.
Oui, tout à fait. Bon, alors après, j'en ai parlé avec des. Parce que bon, c'est le sujet, c'est quand même la mort, comme on l'a dit au début, mais et l'amour et la mort. Comme disait Jean Genet, lorsque l'un est écrit, l'amour et la mort, les deux termes s'associent facilement. Lorsque l'un est écrit, l'autre arrive aussitôt. Donc l'amour et la mort. Je voulais dire une chose précise là-dessus. Ça va revenir. Sur le sujet, non, ça m'énerve, ça m'a échappé du coup. J'aurais pas dû parler de Jean Genet.
On peut y revenir.
Oui,
après.
J'y reviendrai. ça va revenir, c'est pas grave.
toujours sur ce personnage d'Adrien sans H. Malgré tout, le H est une lettre assez importante qui revient souvent, en tout cas dans votre roman, puisqu'il travaille à l'université de Hope. À un moment, on voit une énorme lettre H sous la forme d'un néon rouge au-dessus d'une épicerie. Un autre personnage fume une cigarette de H. Est-ce que, enfin, cette lettre H quand même était importante, j'ai l'impression.
Oui, enfin, c'est une lettre muette, hein, et puis en même temps. C'est une lettre très présente dans tous mes livres. Encore une fois, ça m'amuse aussi de décliner, enfin, ou de déplier toutes les significations possibles. Hein. Donc le H de la cigarette de H, etc. Le H de Harrods, le grand magasin qui se trouve dans cette ville. Je ne peux pas en dire beaucoup plus, c'est-à-dire que c'est effectivement une façon d'être présent, moi, en tant qu'auteur, mais de manière détournée, toujours, soit en passant par les objets, comme cette enseigne lumineuse avec le H, soit en passant par la fumée du cannabis. Enfin, comment dire, je pense qu'effectivement, je sature mes livres. C'est paradoxal, hein. À la fois, c'est un livre sur l'effacement et sur la disparition du sujet et sur la disparition du personnage. Et en même temps, c'est saturé de la présence du personnage, du sujet, de l'auteur même. Mais c'est les deux en même temps. Ouais.
Donc, comme on le disait tout à l'heure, donc c'est l'histoire de trois personnages qui, a priori, ne sont reliés par rien, puisque donc on a un professeur, on a une jeune étudiante, mais qui aide aussi sa mère dans c'est pas le pressing que vous dites, mais c'est
la dégraisseuse.
La dégraisseuse, enfin, voilà.
La teinturerie.
Et un dernier personnage, Maud, qui elle travaille plutôt dans l'audiovisuel. Comment on pourrait relier, enfin, quel est le fil conducteur de ces trois personnages?
Ça, il faudrait le lire, parce qu'en fait, la relation est un peu mystérieuse entre les trois. Enfin, il n'est pas dit directement qu'ils s'aiment et puis qui aime qui, puisqu'ils sont, ils sont trois. Je pense quand même que la coréenne, l'étudiante coréenne artiste de la performance, est amoureuse d'Adrien, le visiting professeur. Adrien lui-même est attiré de manière magnétique par la troisième, par Maud. En même temps, il est suggéré à un moment donné que peut-être la jeune femme coréenne et Maud se sont aussi aimées. Et à aucun moment, encore une fois, il y a de la psychologie sur ces questions-là. Parce que, par exemple, à aucun moment, la coréenne ne manifeste de jalousie pour la relation que pourrait avoir Adrien avec, avec Maud. Donc, ça se passe vraiment au-delà de ça. De même que dans la restitution, la jeune femme qui dirigeait la pension, qui s'appelait Laetitia, la pension dans laquelle il y avait un trafic d'enfants, ça avait choqué certains lecteurs parce qu'au cours du livre, elle travaille dans cette pension, elle s'occupe des enfants, elle leur prépare à goûter, elle leur fait faire toutes sortes d'activités, de théâtre, etc. Et puis, quand même, ils disparaissent un à un, puisqu'il y a des trafiquants qui viennent les prendre la nuit, qui les revendent ailleurs, etc. Il y en a d'autres, il y a des nouveaux qui arrivent, etc. Elle est, par exemple, la personne qui a en dépôt l'argent de tous ses enfants. Donc, elle a un porte-monnaie dans lequel il y a des pièces ukrainiennes, moldaves, croate, etc. Enfin, voilà, elle garde ça en dépôt. Et puis finalement, quand les enfants disparaissent, ben, elle se retrouve avec cet argent. Mais à aucun moment dans le livre, il est question de savoir ce qu'elle pense de cette activité. Est-ce qu'elle en souffre? Est-ce qu'elle a de la culpabilité? Est-ce qu'elle va essayer de les sauver, etc. Donc, je dois avoir un esprit un peu bizarre. Voilà, en tout cas, c'est pas posé. Et c'était assez dérangeant, je crois, pour certains lecteurs. Bon, là, de manière moins dérangeante, peut-être, je sais pas. Il n'y a pas de trio vaudevillesque, amoureux, comme ça pourrait être le cas. Ça se passe, encore une fois, sur un autre plan. Il faudrait quand même peut-être que je précise que c'est un conte. Le sous-titre du livre, le genre, hein, c'est un conte. Mais c'est un conte moderne, donc c'est un conte... Évidemment, c'est lié à l'enfance. C'est un conte moderne au sens où pas le royaume, mais le monde dans lequel le livre se passe est un monde de désolation et de malheur. Et de, donc, puisqu'il y a ce quartier des drogués, on sent qu'il y a une crise économique qui atteint à peu près tout le monde dans cette ville. Donc voilà, c'est notre monde, hein, c'est un monde désolé. Ensuite, c'est un conte moderne parce que c'est pas le prince charmant qui va réveiller l'héroïne, mais c'est plutôt la princesse qui secoue le prince charmant. Donc le livre est narré par la princesse, par la jeune femme coréenne entièrement. Et je peux vous dire que cet Adrien, il faudrait quand même aussi le dire, il est très malmené dans le livre. Hein, c'est-à-dire que si c'est un autoportrait, c'est surtout une autocritique. Enfin, c'est assez violent à l'encontre de ce personnage Adrien. Donc c'est un conte moderne parce que là, c'est la princesse qui a la parole et c'est elle qui secoue le prince. Et puis c'est aussi un conte parce que c'est une autre dimension du livre, c'est-à-dire que le langage a des pouvoirs magiques. Comme dans tous les contes, finalement, c'est, vous savez, il y a une formule qui permet à la princesse ou à la grenouille de redevenir prince, ou à la princesse de s'échapper des bras de la sorcière, etc. Donc là, dans le livre, le langage a une vertu magique, ne serait-ce que le fait que même après la mort, on continue à parler. Et donc il y a un certain triomphe du langage sur la mort que permet le conte et que permet l'écriture aussi.
Mais enfin, je reviens un petit peu sur une autre dimension qu'a votre livre. Donc il y a une dimension amoureuse, mais même s'il n'y a pas de scène équivoque, il y a quand même une dimension sexuelle. Mmh. Et notamment avec une question que vous posez dans votre livre. Et je me demandais si vous aviez fini par trouver la réponse. Sur le sexe féminin, justement.
Ah.
Le sexe féminin demeure entrouvert, ouvert, fermé, seuil des lèvres, recueilli l'une contre l'autre, mais sans suture possible. Lèvres silencieuses, repliées, offertes. Fragilité absolue, sans défense. On peut les violer, certes, mais seulement pour échouer devant leur inviolabilité. Repli des lèvres l'une sur l'autre, repli qu'il est facile de forcer, de briser, de déflorer, mais qui marque en même temps le territoire de l'inviolable. Figure de la fragilité de l'enfant, de l'étranger, de l'animal, l'inviolable serait-il en définitive le sens du féminin ?
Merci pour cette lecture féminine.
Alors, l'inviolable serait-il en définitive le sens du féminin ?
Évidemment, je ne peux pas le dire, parce que même si je... j'ai l'esprit d'escalier, mais je repense à ce que je voulais dire tout à l'heure, mais c'est lié à ça. Mmh. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de donner la parole à une femme ou à une narratrice pour éloigner pour autant le sujet masculin et la prise de parole masculine, etc. Enfin, en tout cas, les questions féministes m'intéressent beaucoup. Là, je fais encore une parenthèse détour, mais j'ai travaillé aussi, j'ai publié deux essais sur deux personnages qui sont tous les deux, de manière différente, mais préoccupés par ces questions. Jean Genet, donc, qui était homosexuel et qui avait un amour des travestis et des transsexuels, etc., qui a des passages extraordinaires sur des soldats déguisés en femmes, etc. Enfin, voilà. Et puis, j'ai aussi publié un essai sur Marcel Duchamp, qui est un artiste de l'art contemporain, un artiste conceptuel, qui lui-même a pris un nom féminin à un moment donné. Marcel Duchamp s'est fait appeler Rose, c'est la vie. Il a créé un parfum à ce nom qui s'appelait... j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave. Eau de toilette, Rose, c'est la vie. Enfin bon, Belle Haleine, voilà, Belle Haleine. Ouais. Et puis, qui donc a joué sur ce nom, et il existe aussi une photo de Marcel Duchamp déguisée en femme. Bon, tout ça pour dire que je tourne autour de ces questions, que je ne peux pas faire beaucoup plus. Ce soir, si vous avez encore envie de m'entendre pendant 2 heures, non, je plaisante, mais je vais parler justement de Marcel Duchamp, et en particulier d'une œuvre qui m'a beaucoup intéressé, qui s'appelle Étant donné, et qui est la dernière œuvre de Marcel Duchamp qui... Pour aller vite, que l'on ne peut voir qu'à travers un Judas dans une porte et qui représente une femme nue, allongée, jambes écartées, un mannequin au milieu des feuilles, etc. Et donc là, ça tourne vraiment aussi autour de ça, hein, autour du sexe féminin. On a dit que c'était une citation du tableau L'origine du monde, hein, de Courbet, qui représente un gros plan du sexe féminin. Bref, mais c'est pas seulement le sexe féminin, c'est le sexe féminin et l'inviolabilité. Et ce soir, je sais que je terminerai mon intervention en disant que, étant donné, interdit le viol. Donc ça doit me travailler, cette question, là aussi. Voilà, donc je sais que j'ai discuté de ce livre avec pas mal de femmes, donc l'une qui me disait ça, qui me disait c'est, ça suffit pas de donner, de faire de faire une narration au féminin pour échapper au machisme, etc. Et donc je me défie, enfin je me sens assez féministe, mais encore une fois c'est délicat de dire, enfin en tant que garçon c'est délicat. Je lis beaucoup sur tout ça, je m'intéresse aussi à tout ce qui est procréation médicale assistée, utérus artificiel, puisque c'est la prochaine invention, la prochaine technique, enfin voilà, sur lesquelles on travaille. Enfin donc voilà, donc je m'intéresse à tout ça. Et après, j'essaie de rester sur cette histoire d'inviolabilité. Je travaille aussi beaucoup sur l'abus.
Excusez-moi, comment faisait ce Marcel Duchamp ?
Marcel Duchamp, il est connu pour avoir inventé les ready-made. C'est-à-dire, c'est le premier en fait qui a abandonné la peinture complètement et qui a choisi un objet presque au hasard, enfin, et qui l'a signé. Et c'est devenu une œuvre d'art. Et donc, quand il a fait ça dans les années 1914-1915, c'est passé complètement inaperçu. Mais 50 ans plus tard, ça a été redécouvert, compris. Et on a compris là que c'était la fin d'une certaine période de l'art et le commencement d'une autre qui continue aujourd'hui avec tout ce qui est installation, performance, où il n'y a plus justement d'auteur d'une œuvre d'art. Mais il y a un rapport entre le spectateur, le visiteur et l'objet. Et c'est là que la chose se passe. Et c'est pareil dans sa dernière œuvre. Mais je ne vais pas en parler là trop longtemps. Mais il a travaillé pendant 20 ans tout seul dans une petite pièce à New York. Et il a créé cette installation. C'était la première. Hein, à l'époque, dans les musées, il y avait seulement des tableaux ou des sculptures. Mais là, il a fait les deux, un tableau-sculpture. Et donc, il a reconstitué une pièce avec une porte et on mettait son œil à travers la porte et on voyait ce mannequin. Voilà. Donc ça, c'est Marcel Duchamp. En bref.
Mais donc, ce soir, si vous voulez découvrir plus Marcel Duchamp, il y a une autre lecture à Bègle. À Bègle.
À l'abbaye de je ne sais quoi.
À
l'abbaye.
À l'abbaye. Ouais.
Ou la chapelle, voilà, la chapelle.
Ah bah voilà.
C'est pour ça que la chapelle. Allez, j'ai oublié le nom de cette chapelle.
Je reviens sur le... Enfin, je mets du champ de côté. Oui. Pour revenir, en fait, sur le caractère amoureux enfin, de Kivala, puisqu'il y a un lieu qui est le lieu de fin de ce roman sans trop en dévoiler, qui est le septième ciel. C'est une montagne. Hein, c'est une montagne qui existe vraiment ou est-ce que c'est vous qui lui avez donné ce nom ?
Non, c'est vrai, mais j'avais pas pensé à la relation entre le septième ciel et la sexualité, mais c'est juste, c'est bien. Non, c'est-à-dire que comme je vous ai dit, le livre se passe aussi à la montagne et donc c'est une station de ski et dans laquelle il y a une piste qui s'appelle Seven Heaven, ouais, le septième ciel. Et non, je n'avais pas pensé à la relation, mais si vous voulez, c'est aussi des personnages qui... Pardon ?
Quand même, c'est tellement
connu. Ah oui. Voilà, mais il y a beaucoup de déni, sans doute, dans ce que je fais. Hein, mais... Bon, alors oui, je voulais un petit passage qu'a choisi Marilyn. Comme vous le savez, parce que donc c'est la narratrice coréenne qui parle et qui parle un peu de cet Adrien qu'elle a rencontré à l'université. Comme vous le savez, dans le métier d'enseignant, on trouve toutes sortes de réfugiés et de gens inadaptés. Adrien enseignait comme un adolescent prudent, qui aimait la sécurité d'un chèque à la fin du mois. S'il n'avait pas perdu tant de temps dans sa vie à corriger la grammaire de ses étudiants et à assister à d'ennuyeuses réunions, il aurait peut-être écrit davantage, peut-être même aurait-il mieux écrit. Mais ce n'était pas un gamin, il savait ce qu'il faisait. C'est un choix qu'il avait fait. Il était écrivain et il fallait manger. Après tout, il avait une fille à nourrir. Il faut manger pour faire de l'art. Mon métier peut me nourrir si mes livres ne se vendent pas, jugeait-il. Et voilà précisément ce qui les fera vendre. Rien de vigoureux, rien de grand ne peut sortir d'une plume toute vénale. Pour pouvoir, pour oser dire de grandes vérités, il ne faut pas dépendre de son succès. Je travaille, disait-il, afin de faire des livres que je n'ai pas besoin d'écrire pour manger et, parce qu'ils n'ont pas été écrits pour manger, se vendront comme des petits pains. De ce côté-là, je dois dire qu'il a été déçu. La question économique lui importait plus qu'aucune autre, si bien qu'il a même écrit un mémoire sur le sujet durant son séjour à Hope. L'écrivain et l'université, note sur l'économie de l'écriture. Peut-être la seule trace de sa prose qui restera de son passage ici. Je continue le paragraphe, encore un. Des aventures avec des étudiantes. Et en fait, il se passe que la narratrice coréenne s'adresse à quelqu'un, on ne sait pas exactement qui. On ne sait pas si c'est une interview, mais en tout cas, elle répond comme ça à des questions dont on ne sait pas qui les pose pour relater cette histoire. Des aventures avec des étudiantes, a-t-il enfreint les règles de la profession ? Pas à ma connaissance. Je n'étais pas étudiante dans sa classe, je l'ai dit. Je n'ai assisté à aucun de ses cours. Je suis venu l'entendre une fois, mais ce n'était même pas une conférence, ni à l'université. Et puis, même si je le savais, je ne serais pas prête à répondre à ces questions. Si dans ses fictions, on retrouve le thème de l'homme plus âgé et de la jeune fille, il serait très naïf de penser que parce que ce thème parcourt la fiction, il faut en trouver la source dans sa vie intérieure peut-être. C'est bien parce que ça permet de préciser un peu ce qu'on disait. Si vous voulez que je fasse un petit peu de cuisine d'écriture, dans ce court passage, il y a au moins trois citations cachées. La première, c'est la phrase que j'aime beaucoup de Jean-Jacques Rousseau, en fait. Mon métier peut me nourrir si mes livres ne se vendent pas. Et donc Rousseau, qui était précepteur et qui, à un moment donné, donc, dans une lettre, ou dans une confession plutôt, a tout un développement sur la question de voilà, écrire pour manger. Mais, voilà. Et la phrase « Rien de vigoureux, rien de grand ne peut sortir d'une plume toute vénale » qui sonne d'ailleurs un peu 18e siècle par rapport à ce livre contemporain et de Rousseau. Mais il y a une autre citation dans le deuxième paragraphe et qui vient, elle, d'un auteur sud-africain qui vit maintenant en Australie, prix Nobel, qui est Coetzee et qui a écrit un très très beau livre que j'ai pas mal lu en fait pour celui-là et qui s'appelle, je crois, Summertime en anglais. Et je crois qu'en français, c'est Le printemps de la vie. Enfin bon, il a écrit trois livres comme ça, autobiographiques et fictionnels en même temps. Et donc, c'est lui qui a cette chose qui me paraît très importante. Si dans ses fictions, on retrouve le thème de l'homme plus âgé et de la jeune fille, il serait très naïf de penser que parce que ce thème parcourt la fiction, il faut en trouver la source dans sa vie intérieure peut-être. Là encore, c'est une citation littérale de Coetzee. Ça, c'est pour la cuisine. Mes livres sont truffés de références, aussi bien littéraires qu'artistiques et que de toutes sortes de choses que je lis, mais qui sont dans la prose, quoi.
Mais pas que. Enfin, après, il y a des citations qui sont pas cachées, puisque vous citez aussi Osamu Dazai,
ouais.
Qui dit une fille de 26 ans, 27 ans sera toujours plus mûre qu'un homme de 38 ou plus. Vous êtes assez d'accord avec cette citation.
Voilà.
Et pour revenir sur le passage que vous avez que vous nous avez lu, est-ce que c'est une vision du personnage d'Adrien au niveau de l'écriture et de la vente, ou est-ce que c'est la vôtre?
Laquelle,
sur cette idée de vendre de l'art ou de se nourrir de son métier?
Vous me demandez si je vends beaucoup de livres?
Non.
Ça pourrait être une question aussi.
Ça pourrait être une question.
Ça viendra. Oui, non, je m'intéresse énormément à ces questions. Si vous voulez, les rapports entre la vie et la création, entre la vie et l'art, hein, dont un des aspects est la question de l'argent. Et la plupart quand des écrivains se rencontrent, et j'en ai fait l'expérience depuis que je suis rentré en France et où j'ai pu revoir un peu mes amis écrivains, la première chose qu'ils parlent, c'est d'argent. C'est-à-dire, comment tu fais? Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu enseignes? Est-ce que tu es propriétaire de ton logement? Ça, c'est la vraie question, c'est le vrai dialogue des écrivains, c'est ça. Et je n'ai pas attendu ces repas-là cet été, enfin, ou depuis que je suis rentré à Paris avec ces étudiants pour m'en rendre compte. Mais disons, bon, ça c'est un aspect, encore une fois, c'est la cuisine de l'écrivain, mais c'est très intéressant. Mais tout de suite, cette question m'a intéressé. Dès les orphelins, je posais que la question principale de l'artiste, c'était d'où vient l'argent. Bon, mais après, évidemment, c'est relié à plein d'autres choses. C'est relié à la question de l'héritage, c'est relié à la question donc, de l'économie. Et c'est donc aussi un des aspects, comme je disais, des rapports entre la vie et la création. Mais ce n'est qu'un aspect. Mais par ailleurs, je pense que je vais continuer dans cette veine, puisque le prochain livre sur lequel j'ai commencé à travailler, ça pourrait être un dialogue entre un banquier et un écrivain. Mais un dialogue assez long, assez nourri. Mais ça ne veut pas dire qu'on va parler que de ces questions-là. Mais disons que ça me travaille. Peut-être aussi parce que dans ma famille, il y a eu des banquiers. Bon, enfin, ça, c'est pas très important, mais bref. Mais voilà, cette question m'intéresse beaucoup. Et puis, il y a par exemple une phrase aussi que j'adore, qui me fait réfléchir, qui est une phrase dans les mémoires de Casanova, qui dit « Elle me regardait comme si j'étais à vendre ». Ça, j'adore ça, parce qu'à partir de là, on peut vraiment partir sur plein de choses. Et donc, finalement, ça revient, et je pense qu'il y a ça derrière la question sur l'argent, la question de l'autre traité comme objet. Bon, c'est ça aussi dans la prostitution. Mais c'est, voilà, c'est la question. Il y a un livre d'un sociologue philosophe américain qui vient de paraître là, enfin, il y a 2-3 mois, qui s'appelait « Est-ce que l'argent peut tout acheter ?» Il y a des expériences très complexes avec ça. Donc, est-ce que l'argent peut tout acheter? Est-ce qu'il peut acheter un corps? Mais par exemple aussi, enfin, je me souviens de cet exemple, il y a des histoires très compliquées autour de ça. Par exemple, les espèces en danger. La Namibie vend le droit de tirer, on n'appelle pas ça le droit de tuer, mais le droit de tirer un rhinocéros noir par an sur son territoire, et elle vend ce droit de tirer très très cher, c'est des centaines de milliers de dollars. Et avec cet argent, on va protéger le reste de l'espèce. Vous voyez, c'est très compliqué ce qu'on peut faire avec l'argent, quoi. Donc il y a un type qui va s'offrir le droit de tuer un rhinocéros, mais qui en même temps va financer la protection de l'espèce. C'est très bizarre, enfin éthiquement c'est très compliqué. Et je sais aussi que un autre exemple dans ce livre, hein, sur est-ce que l'argent peut tout. En Israël, ils avaient essayé à un moment donné d'inciter les enfants à lire des livres en les payant. C'est-à-dire que s'ils lisaient un livre ou plusieurs livres, ils avaient le droit à chaque fois à un peu d'argent de poche. Alors là, ça a été complètement contre-productif. C'est-à-dire que loin d'inciter les enfants à lire, ils ont jugé que ça dévalorisait totalement la lecture à partir du moment où c'était quelque chose de payé, comme encore une fois n'importe quoi d'autre. Donc vous voyez, c'est très complexe, quoi, ces rapports entre l'argent et l'éthique, par exemple. Voilà, donc je m'intéresse à ces questions. Je pense que derrière ça, il y a encore une fois cette question, qu'est-ce qu'on peut acheter, qu'est-ce qu'on peut vendre, est-ce que l'humain peut être traité comme un objet, etc. La question économique qui m'intéresse aussi. Et puis quand même aussi la question de l'œuvre d'art, quoi. C'est-à-dire, quand j'ai travaillé sur la restitution, la spoliation des œuvres d'art pendant la Seconde Guerre mondiale, etc., ce qui est fascinant aussi, c'est le prix qu'acquièrent certaines œuvres d'art. Hein, quand on vend, comme il y a encore 3 jours, un Van Gogh chez Sotheby's, voilà. 58
millions d'euros.
Voilà. Entre la solitude, le travail, la folie, la maladie, voilà. Et puis aujourd'hui, ces chiffres astronomiques d'ultra riches, hein, 50 millions de dollars. Enfin voilà, tout ça, c'est complexe. Ouais. Et puis ça rejoint un autre, je suis intarissable hein, sur cette question, mais ça rejoint une autre question encore, qui est liée donc là à cette histoire de couple homosexuel, d'union libre, etc. Et donc maintenant, pas encore en France, mais un couple homosexuel masculin qui ne peut pas avoir un enfant peut acheter un enfant. C'est-à-dire, il va acheter une ovule ou des ovules et il va acheter une étudiante mère porteuse et il va acheter les services qui vont permettre de réaliser l'enfant, etc. Donc le droit d'adoption entraîne aussi toutes ces questions éthiques. Oui, oui. Voilà. Et on rejoint encore une fois la question plus générale de l'argent et de la création à la fois biologique, physiologique, mais aussi artistique et de ses rapports avec l'argent. C'est un bon sujet.
Oui, foisonnant. En tout cas. J'aurais en fait une dernière question, un peu, peut-être un peu piège. Est-ce qu'un jour on va voir paraître les mémoires d'Adrien Larose?
Alors ça, effectivement, on a déjà fait ça.
D'accord.
Enfin, non, pas exactement, mais quand j'ai publié mon premier livre, c'est une bonne réponse, hein, c'est qu'il était un livre de poésie, enfin, c'était un récit poétique paru à Lyon, et on avait appelé ça « Les anti-mémoires d'Adrien ». Donc je préférerais appeler ça « Anti-mémoire », qui est aussi un autre titre, hein, comme vous savez. Il y a celle de Yourcenar, et puis il y a celle de Malraux, et donc c'est plutôt « Anti-mémoire ouais. ».
Donc là, bon, la suite pour vous, donc il y a déjà la traduction donc des orphelins qui est sortie ou qui va sortir.
Qui est sortie.
Qui est sortie. C'est vous qui avez fait la traduction?
Non. Je parle à peu près correctement anglais, oui. Mais non, c'est deux étudiants américains d'une université, enfin comme ça se fait beaucoup là-bas, hein, des traducteurs mais qui travaillent à l'université. Et puis c'est paru sous le titre Orphans. Il y a à peu près 6 mois et je serai à Dublin la semaine prochaine pour en parler. Ouais.
D'accord. Donc nous, on s'était rencontrés l'année dernière à Dublin. Si ça vous intéresse, il y a une vidéo où on voit Adrien Laroche nous présenter qui va là quand vous travaillez encore à ce moment-là dessus. Mm-hmm. Vous nous aviez dit aussi que vous travaillez sur le livre de Duchamp qui est également paru là cette année. Et aussi d'un autre livre sur Derrida qui lui a priori n'est pas encore fini ou en tout cas pas encore publié. Vous êtes toujours aussi occupé et vous avez toujours autant de projets en cours.
En tout cas oui, mentalement je suis très occupé. ça bouillonne tout le temps. Enfin ça. On n'est jamais laissé en paix quoi, avec les idées, les inquiétudes, les gouffres, etc. Mais donc oui, non, je crois que le vrai projet sur lequel je suis bien engagé, c'est donc un cinquième roman dont j'ai le titre. Ça s'appellera sans doute Le neveu de personne ou Le neveu simplement, on verra. Mais et donc c'est vraiment la suite de tout ce travail. Ça sera sans doute un dialogue entre un enfant et un mort, ou entre un écrivain et un banquier, ou entre cousins. Enfin, je sais pas encore. Enfin, si, ça sera tout ça à la fois. Mais donc ça, c'est ce qui m'occupe le plus. Mais j'ai aussi un projet d'essai, oui. Mais bon, je vais pas développer ça maintenant. Je vous ai déjà bien fatigué avec tous ces. Ces vies et ces concepts mêlés. Et par ailleurs, je suis un peu moins occupé puisque j'avais un bureau à Dublin et donc j'étais occupé aussi par ces choses-là. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc non, j'ai plus de temps.
Voilà. Vous pouvez peut-être nous dire le sujet de cet essai ou vous voulez le garder secret?
C'est Mola qui veut avoir
on veut avoir l'exclusivité.
le scoop. Ça s'appellerait De la décision. C'est un peu comme Kivala, hein, qu'on peut entendre à la fois comme, vous savez, les anciens traités de la mort ou de l'esprit, mais de la décision. Et puis en même temps, c'est de la décision, c'est-à-dire vas-y, décide-toi, comme on dit. Hein. Et donc, ça serait une réflexion sur. Une série de concepts contemporains un peu paradoxaux, comme la décision passive, la plasticité du cerveau, la destruction créatrice, enfin toutes sortes de concepts comme ça. Mais l'idée très, très générale, c'est que la raison n'est pas toute puissante et que dans nos vies, les choses les plus importantes que l'on fait sont parfois dictées par autre chose que la volonté et la raison. Et c'est ce que j'appelle la décision passive. Et peut-être, et donc l'argument du livre qui est très simple, c'est décide-t-on de devenir écrivain, décide-t-on d'aimer, décide-t-on de sa mort, et on peut en poser d'autres comme ça. Et donc j'aimerais essayer de réfléchir sous forme de petits récits, de petits, enfin de, oui, d'histoires, de récits, d'exemples, de citations philosophiques sur ça, sur la façon dont on est agi plutôt qu'on agit, et aussi, ça sera mon dernier mot, comment sortir de la servitude, quoi. Et je sais qu'ici c'est important à Bordeaux, la servitude. Exactement. Donc, comment échapper à la servitude volontaire?
Bah, il faudra venir revenir nous parler de tout ça. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas.
Merci beaucoup à toi. Merci à vous. Hein.